Père Jean-François Dalmant, vous êtes le prieur de l'abbaye de Belloc qui fête ses 150 ans, 150 ans de présence ici au Pays Basque, de rayonnement on peut le dire, parce que c'est une abbaye qui a vraiment beaucoup beaucoup rayonné et qui rayonne encore à sa manière. Déjà, pourquoi fêter ses 150 ans? C'est l'occasion, j'imagine, de rassembler du monde et de se retrouver.
Alors la réponse, elle n'est pas venue de nous, elle est venue de l'Église, qui dans sa tradition, qui elle hérite elle-même cette tradition-là du peuple juif, dans la Bible, on parle des années jubilaires, et donc tous les 50 ans, 25 ans, 100 ans, eh bien on fait une année de pause, une année de réconciliation, une année de mémoire, et on fête une alliance. Donc la démarche de jubilaire est à ce trio-là, célébration, croire et servir le prochain qui vient en ce lieu. Donc pour nous, moines de Belloc, ça correspondait 1875-2025, vous êtes plus fort que moi en maths, eh bien ça fait 150 ans. Alors, donc c'est un jubilé dans un jubilé, c'est comme les histoires de poupées russes quoi.
Donc vous avez fait 2 jours de célébration, puisque ça a commencé déjà hier, même samedi matin je crois, pour fêter ses 150 ans. Et l'idée c'était aussi de rappeler l'histoire de cette abbaye. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être 2 mots rapidement sur les débuts et puis aujourd'hui ce qu'est l'abbaye de Belloc?
Eh bien, tout d'abord, la première chose, c'est que nous avons commencé à fêter ce jubilé en même temps que l'Église commençait à fêter son jubilé. Donc, depuis le mois de janvier, nous avons organisé avec plusieurs personnes des événements. Et j'ai dit aux frères que nous sommes que 12 moines, nous ne pouvons pas assurer la responsabilité d'une telle aventure. On va solliciter tous les groupes, tous les mouvements d'église, toutes les associations qui viennent, ou les individuels, qui viennent au monastère, et en leur demandant de créer un événementiel autour de ce jubilé de la communauté. Et donc, depuis le mois de janvier, tous les mois, il y a 1-2 événements, des fois 3, qui jalonnent ce jubilé. Alors là, dernièrement, le 5 et 6 octobre, c'était à la paroisse de l'abbatie de Clérance d'organiser cet événement jubilaire. Et puis le lendemain, ce lundi 6 octobre, eh bien, nous les accueillons au monastère, puisque le monastère est, au niveau ecclésial, est rattaché à la paroisse de l'abbatie de Clérance, alors que territorialement, nous sommes sur la commune d'Urt.
Et oui, qui est une autre paroisse. En fait.
Qui est une autre paroisse. Mmh. Donc, donc, les paroissiens de l'Abbaside ont organisé cela de façon très fine. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à une des personnes du village pour faire ce travail de mémoire. Et donc, c'est mademoiselle Renée Lachondi, qui, ancienne professeure de lettres, a fait ce travail de mémoire sur l'histoire de l'abbatie de Clérance. Le tout devait tenir dans une conférence de moins d'une heure pour raconter 150 ans d'histoire. C'est compliqué, mais elle a réussi. Et puis, le lendemain, puisque ça se passait au monastère, dépendant de la paroisse de l'abbatie de Clérance, c'était au tour de frère Marc, notre historien, archiviste, et celui qui a écrit, j'allais dire, une histoire de Belloc avec les critères de l'histoire événementielle et l'histoire historico-critique, telle qu'on conçoit l'histoire aujourd'hui, avec son livre « Des hommes travaillés par Dieu ». Ce livre a été publié au CERF, il a été réédité et il est en vente dans le petit magasin de l'abbaye. C'est un livre qui est classé aux éditions du CERF comme « Événement d'histoire ». Alors, c'est à lire parce que c'est... Père Marc écrit, il a mené cette enquête comme Sherlock Holmes. Donc, on est pendu aux pages pour savoir qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Voilà, c'est une histoire, donc, comme l'a voulu le signaler frère Marc, une véritable aventure, mais en même temps, des hommes qui sont travaillés dans ce sens où, non pas économiquement parlant, mais ils sont travaillés par la sagesse. La sagesse qui conduit l'homme à vivre cette alliance et à savoir que Dieu est son créateur, et en même temps celui qui lui pardonne, qui lui fait relever, qui lui dit va quoi, va toujours de l'avant. Voilà.
Vous suivez la règle de Saint Benoît. Qu'est-ce que ça signifie dans les grandes lignes, suivre cette règle?
Alors, cette règle de Saint Benoît, quand je l'ai lue pour la toute première fois, en 1980, je me suis arrêté au premier mot. Écoute, ô mon fils, les préceptes du maître et suis-les effectivement. C'est une règle de sagesse. Cette règle de Saint Benoît est une compilation. Benoît a ramassé plusieurs règles monastiques qui existaient de son temps. Benoît est né en 480 et a pris comme une abeille. Il a fait son miel à partir de toutes ces règles-là et il a donné en plus de ça une couleur qui lui est propre, de savoir que par soi-même, c'est difficile, mais accompagné par Jésus, alors sa parole devient pour moi un guide. C'est très simple, c'est très très simple à retenir. Et bien, toute la règle, c'est cela. Alors, il y a dans cette règle, il y a un certain nombre de chapitres très courts. Benoît est un homme qui a fait du droit à Rome, donc c'est quelqu'un qui c'est pas un romancier, et il va directement au problème. Il aborde la question, toujours dans un équilibre de sagesse. Et puis, il donne des orientations, mais il n'impose jamais les orientations. Il dit, voilà ce que je vous propose, à vous de voir en communauté, là où vous êtes, ce que vous pouvez faire. Mais voilà la direction. Ce qui fait que cette petite règle, alors, si vous connaissez les livres de poche, c'est format livre de poche et c'est pas plus gros que votre index. Donc et je vous donne dans cette épaisseur-là la traduction en français et en latin. Donc c'est facile à lire. Eh bien, ce petit livre-là a permis à ce que cette vie de solitaire, mais qui veulent vivre en communauté de partage et de bien, donc communauté de vie, puisse s'adapter, que ce soit au Japon, en Afrique, en Europe, et je ne sais où encore, quoi. Elle est répandue sur les 5 continents. Mmh. Et parce que Benoît a eu la sagesse de dire à la communauté de s'adapter, le tout, le plus important, c'est de prêter l'oreille à la parole de Jésus.
Alors ici, à Belloc, vous avez été beaucoup dans l'accueil. Vous l'êtes toujours, d'ailleurs. C'est un peu une de vos marques de fabrique. Comment est-ce que vous faites pour à la fois vivre une vie monastique, travailler et accueillir?
Bien, c'est une question de calendrier. Le moine est un homme qui se lève tôt, qui garde une sagesse de vie, d'être en forme le matin. Et il peut être du matin, il peut être du soir, mais il faut qu'il soit en forme pour la journée. Et il partage sa journée en fractionnant sa journée. C'est ce qui est le plus dur pour nous, c'est qu'on a une journée qui est fractionnée. Et le temps que l'on... La prière, il y a le temps des offices, 5 fois par jour. Benoît recommande que les temps de prière communautaire soient très courts. Il dit le mot « très court », mais qu'ils puissent suivre la course solaire. En fait, on a un programme de vie, mais ce programme de vie, il est calé sur la course solaire. Le soleil, il recule jamais, il avance toujours. Donc, à toi de programmer ta journée pour pas faire de reculade, parce que tu perds du temps. Alors, cette course solaire, pour moi, était très, très symbolique au départ, et ce qui m'a permis de pouvoir assimiler ces horaires, ces différentes fonctions que l'on doit assumer, sans être trop stressé. Je dis trop stressé, parce que des fois, on a un peu le bourdon qui nous presse, mais en sachant que il y aura un temps de pause, il faudra que tu respectes ton temps de pause. Voilà. Alors, c'est cette sagesse-là. Et la course solaire est pour moi magnifique. D'ailleurs, les noms de nos temps de prière sont des noms qui sont calculés sur le soleil. L'aude, c'est la louange du matin, heure zéro. Et puis, tierce, c'est la troisième heure après le lever du soleil. Sexte, c'est la sixième heure après le lever du soleil. None, c'est la neuvième heure après le lever du soleil. Et vespéré, c'est le soir, c'est la prière du soir. Et Benoît, reprenant cette tradition de la prière judéo-chrétienne, invite le moine à se préparer à la journée du lendemain le soir, quand le de nuit. Oh, voilà, c'est de nuit que on a ce temps où le dernier office, c'est déjà porte le nom du jour du lendemain. Et alors ça vous met en dynamique, c'est-à-dire que dans le travail manuel, j'ai appris que avant les vêpres, il fallait que l'atelier soit rangé, propre et les affaires prêtes à redémarrer le matin. Voilà.
C'est tout simple.
C'est tout simple.
Ça aide à rythmer effectivement la journée. Exactement. Un dernier mot, frère Jean-François, sur Belloc aujourd'hui. Vous allez nous faire visiter ensuite le monastère, puisque vous êtes installé maintenant sur le monastère Sainte-Scolastique depuis 2 ans maintenant.
3 ans.
3 ans déjà. Comment ça se passe, cette nouvelle vie? Est-ce que vous êtes heureux de cette nouvelle configuration?
Bien, c'est une aventure, c'est une audace. On savait qu'on n'avait pas le choix. Que c'était le seul choix et que ce choix nous avons débattu pendant plusieurs réunions pendant 2 ans et on avait mis une date butoir en disant on va voter et le résultat du vote a été 100% oui. Ça ne s'était jamais vu dans nos votes communautaires. Toutes nos options, toutes nos orientations sont débattues et votées. Et il faut les 2/3 des voix pour que ça soit accordé. Et là, à chaque débat qu'on a eu sur cette thématique-là, de se déplacer, de quitter son lieu de vie et d'aller à la rencontre d'une autre communauté et de créer une situation de vie indépendante, mais dans un même monastère, ça ne s'est encore jamais fait dans l'histoire bénédictine, 15 siècles d'histoire, ni plus ni moins. Et tout cela a demandé à chaque fois un oui. Et ce oui, à chaque fois, a été, de la part des frères comme de la part des sœurs, un oui voté à 100% de oui. Donc, autant les mentalités masculines et féminines sont différentes, autant là, on a pu dire qu'il y a eu des miracles de convergence. Alors, depuis 3 ans, nous sommes là. Les deux communautés ont leur statut juridique monastique propre. Nous avons la même règle chez les moines, chez les moniales, mais l'une est vécue dans un monastère féminin, l'autre dans un monastère masculin. Et puis, l'option, la mutualisation, dont parlent les lettres de Saint Paul, dont parle déjà la Bible. Mutualiser est un mot tout à fait biblique. Donc, on mutualise nos actions qui sont, un, la prière. Nous avons le même office, on a des 2 offices, on n'en a fait plus qu'un. Donc c'était un travail de frères et de sœurs qui se sont attelés ensemble à cela, et à chaque fois validé par les communautés. Même chose pour la cuisine. Nous avons une cuisine, il y a frères et sœurs qui travaillent ensemble. Et puis après, l'accueil, où les 2 hôtelleries se gèrent, un par un frère, un par une sœur. Et dès qu'il y a besoin, eh bien, il y a une entraide qui se fait. Donc, mutualisation, c'est le maître mot qui nous a permis d'apporter ce projet qui n'était pas utopique, puisqu'il avait un lieu, le monastère. Il y avait une intention, c'est de rester sur la colline de Belloc, parce que l'absence de communauté monastique pour la chrétienté allait être très difficile à vivre. Et sans vouloir le cacher, on s'est dit nous n'avons pas le droit de partir, même si notre devoir est de rester. Donc on était à l'arrêt du bus, on a attendu que le bus passe, on a pris le bus, on a fait 600 mètres à côté et on s'est installé. Bien sûr, il a fallu 3 ans d'adaptation, mais c'est tout à fait humain, logique. Maintenant, les travaux sont finis, l'office est en voie d'être quasiment construit, bâti. Et les hôtelleries fonctionnent ensemble. J'allais dire, c'est pas une vitesse de croisière dans laquelle nous rentrons, mais nous rentrons maintenant de plein pied avec le potentiel de ce que nous avons à pouvoir donner aux chrétiens et aux passants qui viennent.
Eh bien, merci beaucoup, frère Jean-François, et bon jubilé.
Merci.